Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on reçoit un invité.
Marc Angelo Coppola.
So let's get it.
Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grand perte. Toujours utiliser de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Nous ne sommes pas conseillers financiers. Ce que j'ai dit, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Voilà, je le dis.
Et voilà. C'est donc, parfois, j'ai juste envie d'aller chercher une licence en tant que conseiller financier pour juste... arrêtez de dire ça.
Non, tu pourras...
c'est toujours...
Tu vas devoir le dire. Et en plus, tu vas perdre ta licence quand tu dis le mot Bitcoin, Ethereum. Si tu dis que la plupart des fonds mutuels te défoncent avec les frais, tu perds ta licence aussi. Tu vois, c'est chaud quand même.
All right. So, aujourd'hui, on a un investisseur, un entrepreneur, un fermier, un beau papa. Mais Marc, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes pour les gens qui ne te connaissent pas?
Oui, je suis un entrepreneur et je dirais un storyteller et investisseur depuis 2012. Alors, ça fait 17 ans environ que j'ai commencé ma carrière. Pas 2012, excuse-moi, 2007. J'ai commencé ma carrière comme entrepreneur. J'étais propriétaire d'un skatepark intérieur. J'ai vendu ça après 3 ans. J'ai fait le tour du monde et j'ai acheté une ferme et j'ai lancé 2 agences de marketing, un en web design et coding, pour créer des sites web, et l'autre en création de contenu, création de podcasts, tout ce qui est Facebook Ads, tout ce qui est compter des histoires online. Et j'ai aussi commencé une ferme il y a 11 ans. C'est une ferme à 20 minutes, environ 20 minutes d'ici, à Montréal, sur la rive sud, une ferme de 88 acres, ce qui est quand même énorme. C'était vraiment une ferme OGM de maïs, de soya, qui n'avait aucune infrastructure. Et durant les 11 dernières années, j'ai investi longtemps, non seulement moi, mais avec beaucoup de gens qui m'ont aidé. Et j'ai bâti un brand qui s'appelle Ferme Valhalla, ou Valhalla Farms en anglais. Et je dirais, on est une ferme organique, non certifiée. Alors, on est une ferme all natural, on dit. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent à tous les fins de semaine, tous les vendredis, samedis, aider, apprendre et commencer leur propre ferme ou leur propre production, que ce soit de l'apiculture, que ce soit... de planter des végétaux, que ce soit des arbres fruitiers, un peu de tout. Alors, c'est un peu ça, mon profil. Et en tant qu'investisseur, j'ai toujours été passionné de crypto. En fait, j'avais un crypto miner, un Bitcoin miner en, je veux dire, 2013 ou 2014, je veux dire. Et je pense que le premier Bitcoin que j'avais acheté était à 400$. Alors, j'étais quand même... J'ai toujours été passionné des alternatives, je dirais. Je suis un entrepreneur, mais qui cherche à penser à long terme. Et je dirais que ça caractérise un peu mes pensées comme investisseur et comme entrepreneur. J'investis vraiment à long terme.
Je pense, avant même d'aller en tout ce qui est crypto et blockchain... J'aimerais que tu partages un peu le mindset que tu avais lorsque tu as commencé à développer la ferme. Moi, j'y étais. Mm-hmm. Pour ceux qui savent pas, on va mettre les liens et l'information pour la ferme et le mouvement qui sont en train de faire. Mais j'y étais il y a 1 an. Littéralement, c'est magnifique de voir ce qui a été accompli. Tu arrives là-bas, tu te sens à la maison. T'es accueilli comme si t'es chez toi, t'es à la maison, tu fais partie de la famille. La vision aussi des gens, c'est pas mal des gens jeunes, je veux dire, souvent les gens qui travaillent dans les fermes, c'est pas mal des personnes traditionnelles qui sont dans l'agriculture, mais là c'est vraiment des jeunes qui viennent s'investir dans la vision du futur pour nous et nos enfants. C'était quoi le mindset que t'avais pour développer, c'est quoi le mindset et la vision que t'avais par rapport à ce qui se passe dans le monde pour développer tout ça?
Pour moi, c'est venu au fait que j'ai écouté beaucoup trop de podcasts, mais aussi de documentaires au courant d'une année quand j'avais gradué de McGill en entrepreneurship et marketing. Puis, en fait, j'ai décidé que j'allais écouter un documentaire à chaque semaine pendant 52 semaines ou une année. Et j'ai toujours su, ou j'ai toujours vu le même problème qui venait de l'avant. Ce qui est toujours, on a un gros problème dans le monde, il y a de quoi qui ne va pas bien. Et 95% du temps, il disait, on doit faire de quoi, mais à la fin, il n'y avait jamais une solution. Mm. Alors, pour moi, j'ai trouvé cette solution-là à juste dire, ah bon, si j'allais pointer un doigt à quelqu'un d'autre, mais il y en a trois autres qui me pointent, alors il fallait que je m'appuie. Si j'allais chialer de tous les problèmes du gouvernement ou de la société, fallait que je m'implique à être partie de la solution comme telle. Pour moi, cette solution-là était, bon, si je peux pousser ma propre nourriture, si je peux créer mon propre énergie, avoir accès à notre propre eau et avoir vraiment une communauté qui s'entraide et qui est autosuffisante, mais qui est toujours liée à la communauté, à la réalité, à la société, que ce soit l'Internet ou juste d'aller en ville faire des affaires, que ça l'aide. Ne promouvoir un mouvement que moi j'appelle en anglais freedom culture. Ce qui est to empower and encourage all individuals to spread their unique gifts to the world. Alors en français, c'est
la culture de liberté.
Une culture de liberté, mais qui essaie de trouver la passion des gens ou le côté entrepreneurial de tout le monde et d'essayer de non seulement l'aider, mais de le faire venir de l'avant et de vraiment que ces gens-là peuvent vraiment vivre de cette passion-là et entraider ces gens-là. Alors, je dirais à notre ferme, on pousse, tu sais, on a un incubateur non seulement pour les plantes, mais aussi pour les passions des gens. Et ce modèle-là, oui, la vision de ça, et me suis toujours venu aussi du fait que en étant un entrepreneur en marketing, à bout de ligne, je faisais toujours ça. Je cherchais toujours les talents du vidéographe, je cherchais le photographe, le web designer, le développeur. Puis de toute façon, je faisais des équipes pour des clients. Mm-hmm. Alors, je développais ces gens-là et je leur aidais. Et comme directeur ou chef de marketing, bien, c'était mon rôle de comprendre qui travaillait bien ensemble, qui devrait faire un projet ensemble et comment cet écosystème d'équipe-là pourrait promouvoir les histoires, le brand, mettons, que j'aidais à ce moment-là. Alors, je dirais que la ferme, c'est ce même... Tu sais, c'est parce que souvent, les gens sont comme, OK, ben t'es online marketer, mais en même temps, t'es fermier. Je comprends pas le lien entre ça, mais je dirais, pour moi... Ça prend les mêmes attributs, ça prend les mêmes connaissances dans un sens. Mmh. C'est juste appliqué dans un, ce qui est dans le real world ou dans le vrai monde, et l'autre, ce qui est dans le monde digital ou online, mettons. Mmh.
Mmh. Et c'est quelque chose de beau, je pense, à la ferme. Mmh. Les gens qui ont aidé à bâtir la ferme, c'est 100% des gens de la communauté. Je veux dire, quelqu'un embarque, il aime la vision, il voit vraiment ce que vous voyez. Il dit, oh, vous avez besoin d'un cuisinier. Moi, je suis cuisinier, j'ai de l'expérience. Est-ce que je peux m'impliquer? Mm-hmm. Ou autant les gens en construction qui se sont impliqués. Vous avez fait une extension de
la maison principale.
Donc, je trouve que c'est quelque chose d'incroyable parce que tant qu'à juste amener des gens ou potentiellement payer quelqu'un à l'externe, tu impliques les personnes dans la communauté à venir bâtir. Et c'est littéralement ce qu'on est en train de faire aussi. On est en train de regarder qui est dans la communauté, mm-hmm. au lieu de chercher quelqu'un qui va s'occuper des réseaux sociaux ou quelqu'un qui va s'occuper de la communauté. Sûrement, il y a des gens dans la communauté qui peuvent le faire.
Absolument.
Qui va nous amener beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement.
Mm-hmm. Absolument.
Love it. Mm-hmm. Love it.
Moi, j'ai une question. Mm-hmm. Pourquoi Valhalla?
Bon, ça vient de la mythologie des Vikings, en fait. C'est le paradis des Vikings s'appelle Asgard, et il y a comme un en anglais, Great Hall, il y a comme un centre communautaire au centre de ce village de paradis où les Vikings qui ont vécu une vie honorable vont à ce paradis-là pour s'entraîner pour la guerre entre good and evil, entre le bon et le mauvais, mettons, tu sais, les héros et les villains. Puis, et je voulais de quoi qu'il y avait vraiment cette mythologie-là, parce qu'à bout de ligne, on bâtit notre paradis sur Terre, mais en même temps, je voulais de quoi qui se dit bien en français, en anglais, qui se dit bien, en fait, partout au monde. Mm. Et il y avait déjà une mythos, il y avait déjà un brand, dans un sens, qui allait aider notre croissance, qui allait comme... interagir et faire que les gens se... se questionnait pour poser cette même question-là. Pourquoi? Parce que les gens reconnaissent Valhalla, mais ils ne savent pas nécessairement l'histoire au complet. Alors, on pouvait ajouter à cette histoire-là. Et j'irais... L'autre affaire, c'est que, d'après moi, les Vikings ont venu ici, en Nord-Amérique, avant les autres Européens. Alors, ils parlent souvent de leur voyage et de trouver une place qui s'appelle Vinland. Et d'après moi, les Vikings ont venu au Canada, ont venu aux États-Unis et ont trouvé sûrement les vignes qui étaient sûrement des bleuets ou d'autres plantes qui étaient dans notre écosystème ici au Canada, mettons.
Mmh, ouais. C'est magnifique. Ouais, en plus, ça vient avec le concept d'amener paradis sur terre. Mmh. Et dans le monde religieux, souvent, bon, on ne va pas parler de religion en tant que telle, mais dans le monde religieux, il y a des gens qui vont faire tout pour aller au paradis, mais sans comprendre que tu ne dois pas faire tout pour aller au paradis, tu dois faire tout en sorte que le paradis soit sur terre.
J'avoue.
Donc, le fait que le concept est de créer le paradis sur terre, ça vient aussi avec le concept d'impacter des gens, aider les gens, redonner à la communauté. Et puis, c'est magnifique.
Merci.
Comment est-ce que tu vois... Maintenant, le monde plus de crypto-monnaies, bien évidemment, la technologie est en train d'évoluer rapidement. Toi, tu es quelqu'un qui est passionné par la technologie. Juste quand on est rentré dans le studio, il analysait un petit peu toutes les techs du podcast. Comment est-ce que tu vois cette nouvelle technologie maintenant de blockchain, de crypto-monnaie qui pourra s'implémenter avec la culture de liberté
Compris.
Dans le monde de fermier?
Ben, en fait, je dirais que... La monnaie existe dans un sens comme une énergie. C'est l'énergie que tu as mis du temps et tu vas échanger ton temps pour un service et je te paye tant à l'heure. La monnaie a toujours été dans un sens une façon de faire la comptabilité de l'énergie qui s'échange entre les gens, entre les compagnies et les gens, mettons. Moi, à la ferme, ce que j'ai vu et vécu, et ce que je vis toujours, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir s'aider, vont venir apprendre qu'ils n'ont pas nécessairement les compétences d'être le gars ou la femme que je vais engager en ce moment pour faire la job comme telle. Mais il y a, en anglais, on appelle ça le goodwill de ces gens-là qui aident, qui vont entraider, qui vont venir... mettre du temps et de l'argent souvent où ils vont s'essayer comme entrepreneur ou comme passionné, comme hobbyiste dans de quoi. Et moi, je voulais toujours et je vois le crypto comme une pas une sortie du système, mais comme une alternative pour comptabiliser ce goodwill-là. Et si je pouvais remercier toutes les gens qui viennent à la ferme en leur donnant des points, que ce soit des points comme on voit à, je sais pas, Starbucks ou quand tu vas au cinéma, des enfants de même, tu sais, des points que regarde 10 films chez Scotiabank, puis là, le 11e est gratuit, des enfants de même, mais pourquoi pas utiliser ce même système-là, cette comptabilité-là, pour donner plus aux gens qui ont aidé à faire ce qu'on fait. Parce que la ferme, oui, je suis le propriétaire, je suis dans un sens le chef d'équipe, mais c'est pas moi qui fais tout. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Il y en a certains qui sont là à temps plein, d'autres qui sont là à temps partiel, d'autres qui viennent de temps en temps. Mais si je peux comptabiliser ça et utiliser une technologie pour suivre et avoir vraiment de quoi qui est très clair pour tout le monde dans le tout, mais je trouvais que c'était intéressant comme technologie. Alors, je trouve que le marché crypto un peu a comme rentré juste dans le côté plus du stock market, c'est que les gens vont spéculer sur la valeur de telle affaire et c'est comme un... c'est basé beaucoup sur le hype, dans un sens. Mais il y a une vraie technologie, il y a des vraies capacités de ces cryptos-là que, d'après moi, sont survolées des gens qui sont souvent intéressés. Mais cette technologie-là peut bâtir une vraie communauté et peut être un système d'échange alternatif de cette communauté-là. Et bon, moi, je pense que les taxes, au moins les taxes, les impôts de your income taxes, sont... it's robbery. Pour moi, c'est injuste dans un sens, mais s'il y a d'autres façons qu'on peut payer ces gens-là, on peut récompenser ces gens-là qui sortent un peu du système, ben, pour moi, ça m'intéresse comme technologie comme telle. Plus que ça, je pense aussi que d'avoir un système qui est hors contrôle de n'importe qui dans l'organisation et qui a des règles qui ne sont pas changeables et un ledger qui n'est pas changeable, une comptabilité qui n'est pas changeable, ça fait un vrai système d'interagir avec la communauté que tout le monde peut faire confiance. Mm-hmm. Et ça, je trouve très intéressant comme système.
En plus, ça va bien le Bitcoin avec Valhalla, parce que c'est comme, quand tu parlais du ledger, c'est littéralement comme les pierres vikings, les grosses pierres vikings où ils gravaient des histoires. Mm-hmm. Puis ce qui est intéressant dans les pierres vikings, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais anyway, et c'est que tu peux graver des histoires dedans, mais tu ne peux jamais en effacer. Ça veut dire n'importe qui pouvait venir rajouter une histoire, mais une fois qu'elle est gravée dans c'est une genre de grosse pierre. Et ben, c'est impossible de faire l'inverse. Bitcoin, pour moi, ça a toujours été un peu comme les pierres vikings, mais des temps modernes. Parce que quand tu passes quelque chose dans la transaction, toutes les transactions, tu ne peux jamais retourner en arrière. T'sais. Et je dis toujours, c'est comme une salade de fruits que tu prends et tu mets au mixeur. Si tu mets toute la salade de fruits, peut-être tu avais des oranges, des bananes, toutes sortes de choses, mais une fois que tu la mets dans le broyeur, tu fais c'est fini. Absolument. Tu ne pourras jamais reprendre ce jus et le retransformer dans les légumes entiers. Et c'est un peu la même chose qui se passe là, c'est que une fois que la transaction est passée, une fois que c'est écrit dans le ledger, premièrement, tu ne peux jamais retourner en arrière, voir exactement c'était quoi, à part si je sais que c'est moi qui ai fait la transaction, mais en tout cas, en général, toi, tu ne peux pas retourner en arrière et savoir. Et de deux, c'est une pierre viking virtuelle des temps modernes. Tu ne peux pas aller effacer. Tout ce qui se rajoute dans le ledger de Bitcoin, tout ce qui se rajoute dans ces données, se fait toujours ajouter, mais ne peut pas se faire effacer.
Exact.
C'est juste une parenthèse là-dessus, parce que je trouvais ça drôle. En plus, tu sais, voilà, la movement, t'aimes le Bitcoin, puis j'étais comme, c'est comme... Là, tu parlais de ledger, puis j'étais comme...
C'est en plein ça. Viking, c'est très intéressant comme système. Et comme j'ai dit, ça, en fait, parce qu'à la ferme, j'ai un pouvoir un peu plus, mettons, imposante que d'autres qui viennent pour la première fois ou qui viennent même souvent, mais ça fait peut-être une année ou deux années qu'ils s'impliquent. Mais en même temps, d'avoir un système que tout le monde peut connaître les règles, tout le monde peut s'éduquer à comment ces règles-là fonctionnent et tout le monde a accès et peut sortir, rentrer et sortir quand ils veulent. Et souvent dans des investissements, mettons, côté real world ou le monde réel, mais c'est très dur à dire, OK, mais moi j'ai aidé à 5% à bâtir ce nouveau édifice-là, mais je ne peux pas revendre cet édifice-là comme la personne qui a aidé, ils n'ont pas accès à la valeur de ça. Mais si je prends ce qui se passe dans le monde réel et je me mets une façon que les gens peuvent interagir ou avoir une fraction de propriété avec de quoi, mais sans impliquer les avocats, les affaires, les comptables, nanana, tout le système qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais c'est une façon de comptabiliser les petites interactions et les petits échanges et aussi de récompenser ces gens-là à long terme aussi. Alors, d'après moi, il y a comme un mouvement.
Une collection de NFT, hein?
Ben,
juste de la façon que tu parlais, je m'attendais que tu dises.
Dans un sens, ben oui, comme une collection de NFT. Absolument.
Reliée à la ferme.
Absolument.
Ça, c'est. Je t'interromps, mais c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant. Ouais. Tout ce qu'on parle de. Parce que là, le grand défi des NFT, c'est que. Ben, l'ancien grand défi, parce que c'est plus vraiment le cas, mm-hmm. c'est que c'est vrai que back in the day, là, on remonte en 2016, 2017, 2018, un NFT, c'était juste une œuvre d'art. Complètement spéculé. Je comprends que c'est sur un contrat intelligent. Je sais que c'est pas un JPEG, là. Mm-hmm. Je comprends que c'est sur un contrat intelligent. Mm-hmm. Mais reste que c'était complètement spéculatif sur le fait que, exemple, j'achète une œuvre d'art ou j'achète une œuvre d'art en NFT. Absolument. Mais ce qui devient extrêmement intéressant avec le concept que tu parles, c'est ces NFT qui peuvent être de l'art, mm-hmm. que tu peux utiliser dans le métaverse et tout ça, mm-hmm. ou tout simplement même que tu peux utiliser aussi dans le monde réel. Par exemple, là, j'étais en train de lire sur c'est quoi déjà? Etihad Airline, quelque chose comme ça, et j'ai oublié le nom. C'est un airline qui vient de Dubaï.
Mm-hmm.
Non, c'est pas Emirat.
Non.
Mm-hmm. Non, c'est un autre. C'est pour ça que c'est comme Etihad, quelque chose comme ça, en tout cas. Mm-hmm. Et ils sont en train de faire des NFT, mm-hmm. où ces NFT-là, premièrement, t'as plein d'avions, c'est genre. Leur NFT, c'est des avions. Mm-hmm. Mais tu as plein d'avions différents. Soit tu as le NFT genre en mode virtuel. Mm-hmm. Ils sont en train aussi de le bridge vers des métaverses pour que tu puisses avoir l'avion dans le métaverse. Pourquoi pas, tu sais, tu pilotes ton avion dans le métaverse.
Compris.
Why not?
Ouais.
Mais dans le monde réel, ça te donne accès illimité à tous les salons privés, les lounges privés, mm-hmm. dans l'aéroport mm-hmm. de Dubaï et différents aéroports de ces régions-là, mm-hmm. ça te donne plus 25% de ce genre des Air Miles, mais de leur airline. Mm-hmm. Ça te donne avantage pour les bagages, bagages gratuits pour ci, bagages gratuits pour ça, checking en avance, nanana. Mm-hmm. Et là, tu regardes ça et tu te dis, purée, mais ça, c'est le genre de NFT que moi, personnellement, ça m'intéresse. Parce que là, tu as un NFT qui est sur un contrat intelligent qui te montre que pour... Et eux, ce qu'ils ont dit, c'est que c'est valide à vie. Donc, il y a des Absolument. Fois, il pourrait avoir des dates ou des choses comme ça. Mais là, sur le NFT, c'est écrit comme « Ah, tu peux pas me l'enlever, c'est valide à vie. Mm-hmm. Tu l'as émis officiellement par cette compagnie-là. C'est là, tout est là. »
Et c'est revendable.
C'est revendable. C'est insane. Imagine dans 10 ans, la compagnie, elle est hyper grosse. Et dans 10 ans, il y a une vraie utilité derrière. Tu sais, c'est comme les... Adidas sont en train de faire la même chose. Là, ils sont en train de lancer une autre collection avec Polygon de... Digital, j'ai oublié comment ils disent, Digital, mm-hmm. Digital NFT. Alors, dans le fond, quand tu achètes le NFT, tu as le NFT de la chaussure Adidas que tu peux porter aussi dans le métaverse, mais tu vas à leur magasin et tu as la vraie chaussure aussi. Mm-hmm. Pour moi, les vêtements et tout ça, c'est pas quelque chose. Je sais qu'il y a. Un jour, un gars va vendre ça pour un prix ridicule parce que c'est les premiers
fucking Adidas. Il y a des trips de n'importe quoi dans n'importe quelle collection, que ce soit de l'or ou des souliers ou que ce soit...
Il faut que ça t'intéresse. Moi, les vêtements et tout ça, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas y aller. Mais je suis conscient que, imagine les doutes qui sont en train d'acheter ces premiers souliers Adidas-là, mm-hmm. version NFT et truc, une collection, putain, dans 20 ans, combien il vend ça, le gars?
Parlant de NFT... Puis qu'est-ce qui nous intéresse? Moi, quelque chose qui m'intéresse lorsque je cuisine, c'est de l'ail. Alors, ce que j'ai entendu dire, c'est que vous avez créé littéralement les premiers NFT de l'ail.
Mm-hmm. Absolument. Alors, il y a...
De l'ail, t'as dit.
De l'ail. L'ail, okay, oui. Okay. Le garlic. Oui, alors c'est très réel. Mettons, pour moi, je voulais une façon que les gens peuvent s'impliquer à la ferme, mais pas nécessairement toujours être ou avoir la responsabilité de toujours venir tout faire. Mm. Alors, pourquoi pas être capable de créer des fermiers, mais de le faire pour toi ou avec toi, dépendant de quelle volonté que tu veux être impliqué. Alors, Parce que quand moi, j'avais commencé la ferme, moi, j'avais pas accès à faire un revenu comme fermier. Et il y a beaucoup de bénéfices que tu peux avoir comme fermier. Alors, si tu es fermier, tu as une terre agricole, déjà sur les taxes, tu peux sauver 75 à 85% sur les taxes si tu es fermier. Et tu as une ferme enregistrée sur les taxes de propriété. Bon, ça, c'est intéressant. Là, si tu es fermier à temps plein, tu peux aussi bâtir une maison parce que tu peux faire ce qui s'appelle une déclaration pour bâtir ta maison sur ta propre ferme. Et tu peux aussi bâtir tous des édifices qui sont reliés à une ferme. Mais les édifices qui sont reliés à une ferme, c'est comme une catégorie d'édifices. C'est une catégorie qui est comme une zone grise qui est très intéressante pour moi dans le côté ou dans le marché de l'immobilier ou de penser que les fermes vont prendre de plus en plus de valeur. Okay, tu as parlé de souvent les fermiers tu penses qu'à un fermier, tu penses à un homme ou une femme âgée. Ben en fait, ici au Québec, la moyenne d'âge des fermiers, c'est 54 ans. Et depuis 20 ans, le nombre de fermiers en dessous de 35 ans a diminué de 50 %. Alors, il y a très peu de gens à notre âge, mettons, ou qui sont moins âgés que 35 ans, qui sont impliqués dans des fermes, mais en même temps, tout le monde mange. Alors, pourquoi pas avoir accès à faire des investissements qui sont réels, qui peuvent doubler ou grandir? Parce que tu as trois choix dans un sens avec l'ail. Okay? Le premier choix, c'est tu prends possession. OK, bon, mettons, j'ai un restaurant et je veux acheter de l'ail du Québec, mais le supply chain, pour trouver cette ail-là, il y a une grosse compétition. Et toi, tu veux acheter de quoi pour ton restaurant ou pour ta famille, pour donner, pour n'importe quoi. Vous avez accès à ça. Alors, on pousse l'ail pour vous. Vous avez accès, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Première option. Deuxième option, on le revend pour vous. OK, on pousse l'ail, tu payes pour acheter l'ail comme tel, tu payes par rangée d'ail, mettons, toutes les rangées ont une longueur de 100 pieds, il y a 5 ail par rangée, plantées aux 6 pouces. Alors, tu as 1000 ail dans une rangée à boucler. Là, tu as accès à ce qu'on fasse le travail pour toi, on le revend, mais c'est ton ail. Alors, tu peux commencer à mettre les revenus dans tes taxes, que ce soit sur une compagnie ou sur ton nom personnel, mais là, tu peux devenir fermier et tu peux aussi prendre des dépenses de fermier, qui est intéressant. Alors là, tu peux mettre des dépenses qui sont reliées à ta ferme, mais c'est intéressant parce qu'il y a une zone grise là-dedans. Bon, si tu achètes des outils, mais j'achète des outils pour ma vie, mais j'achète aussi des outils pour la ferme, je peux prendre ces dépenses-là contre les revenus et je peux sauver sur les taxes, sur les affaires de même, ce qui devient intéressant pour les gens, d'après moi. Okay? Et il y a aussi la vente du produit qui peut être payante. C'est une belle année, bon, les prix de l'ail vont monter, on a vu avec l'inflation les prix de tout monter, mais dans ce qui est la nourriture va continuer à monter de plus en plus parce qu'à chaque fois qu'on ajoute une scène au gaz, mais il faut penser à la chaîne que la plupart de l'aide du monde vient de la Chine, premièrement. Il faut penser que chaque fruit, légume, n'importe quoi qu'on mange parvient d'une chaîne de logistique de fou. Il faut penser que c'est poussé ici, il y a des tracteurs qui sont utilisés pour pousser ça. Là, il faut l'envoyer de Chine à BC, mettons, puis prendre un train jusqu'à ici, nanana. Alors, à chaque fois qu'on ajoute même des taxes qu'on a vues récemment de changement climatique qu'ils ont imposé sur le gaz, ben en fait, chaque scène va tripler, quadrupler, parce qu'il y a plusieurs points que cette production-là a été touchée et a été bougée dans la chaîne avant que ça arrive dans ton assiette. Okay? Incluant le fait que toi, il faut aller au supermarché, puis il y a beaucoup, beaucoup de coûts qui vont s'ajouter de plus en plus à la nourriture comme telle. Et la troisième option, d'après moi, ce qui est très intéressant, c'est que chaque ail, pour faire une plante d'ail, tu prends la gousse d'ail et tu plantes l'ail dans la terre. Cette gousse va devenir une autre tête d'ail avec 3-4 autres gousses. Alors, tu peux prendre un investissement que tu as mis dans la terre.
L'intérêt composé, on aime ça.
Absolument, absolument. Alors, tu commences avec une rangée, mais avec une rangée, tu peux sûrement au moins doubler, peut-être tripler dans certains cas. Alors, tu mets ton argent maintenant, tu deviens fermier, tu prends les dépenses comme fermier cette année. Alors, mettons que t'es dans t'as de l'argent, tu fais de l'argent à chaque année, mais là, tu peux prendre ces dépenses-là contre tes income tax. What's the word for income tax?
C'est imposition sur le revenu.
Ouais, OK. Bon, si je prends ces dépenses-là cette année, j'y prends encore l'année prochaine. Mais si je suis dans un tax bracket qui est haut et élevé ici au Canada, mettons environ 50% ou c'est 49, 40, whatever pour cent, mais là, tu commences à avoir un gain direct là-dessus. Et tu as toujours l'option de cash out quand tu veux, ce qui est intéressant. Et y a-tu une autre affaire qu'on peut faire dans la vie où on peut planter de quoi et avoir de plus en plus en plus de retours et doubler à chaque année, dans un sens, le revenu qui parvient de ça?
Même c'est tripler, très... quadrupler.
Potentiellement. Potentiellement, OK? Et je suis pas
le
là
résultat
pour...
passé des pouces d'ail.
mais ce que tu fais aussi, c'est que tu passes des revenus de plus en plus dans des années précédentes. Mm. Alors, si tu es proche de ta retraite, là, tu vas sauver tes taxes sur les années que tu as planté, replanté et eu ces dépenses. Et là, il y a une année que tu fais moins de revenus, boum, tu cash out cette année. Tu comprends? Alors, tu as des gains non seulement sur l'ail comme tel.
Qu'est-ce que tu veux
tel.
Dire par tu cash out?
Ben, tu peux vendre l'ail comme tel.
Vendre les plantes ou vendre l'ail?
Tu as deux options, en fait. Tu peux vendre le NFT, tu peux vendre la rangée d'ail que tu as acheté. Alors, ouais, tu peux, okay, c'est la première année,
dans le fond, toi, chaque rangée, tu le relis sur
un NFT.
NFT.
Exact. Et à chaque fois que tu replantes, je te redonne des
sur
NFT.
Sur quel écosystème, par curiosité?
Excuse-moi?
Tu les bâtis sur quel
Moi, je vais faire ça sur Polygon. Alors, on va avoir...
That's it!
Et voilà. Mais c'est absolument la meilleure façon de le faire. Ethereum est intéressant, mais c'est les gas fees sont trop...
Mais
trop
ouais, tu Polygon, t'as littéralement la même qualité de réseau qu'Ethereum avec des gas fees...
Absolument. Et tu peux prendre cet NFT-là, le mettre dans n'importe quel wallet, puis le revendre, que ce soit sur OpenSea ou que sur notre propre plateforme, des affaires de même, c'est à toi de décider. Parce que c'est ton NFT qui représente de quoi qui est très réel. Mm. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en vendant de l'ail et en étant fermier, quand tu vends ta propre production, tu ne charges pas les taxes TPS, TVQ sur cette vente-là. Si moi, je pousse une tomate, je te le vends pour 1$, je te charge 1$, mais je donne 0 au gouvernement. Alors, c'est intéressant. C'est comme un système où on s'entraide, on s'échange, et le gouvernement ne touche à rien de cet argent-là. Il n'y a pas une taxe de 15% à chaque fois. Il n'y a pas une perte de cet argent-là dans le système et dans le renouvellement de le système comme tel.
Je trouve ça aussi vraiment intéressant au sein de l'agriculture parce que quand je suis venu l'année passée, j'ai pas mal aidé aussi j'ai pu expérimenter le système d'ail en personne et pouvoir aider à le planter, le récolter aussi. Mm-hmm. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand tu arrives là, il y a tellement de rangées que tu peux pas savoir laquelle est la tienne.
Absolument.
Et donc, lorsqu'on arrive avec un contrat intelligent, je peux littéralement être en train de boire mon mojito à Dubaï.
Oui.
Puis, vu que j'ai un contrat qui veut dire une possession automatique sans revenir après, et bon, la ferme, elle est magnifique, oui, et les gens sont magnifiques, mais on est d'accord que c'est pas tout le monde qui sont des bonnes personnes.
Ah non, c'est sûr.
Ça se peut qu'un jour, tu vas quelque part, tu as fait un deal avec quelqu'un, puis il va te dire « Quel investissement de 10 000 pour ton ail?
Oui.
Il n'y a pas d'ail ici pour toi? » Mais ici, c'est non seulement avec des bonnes personnes, mais c'est dans un contrat intelligent que
absolument.
You own it.
Ouais,
c'est
à toi. T'as pas d'avocat, t'as pas de notaire, t'as pas tous ces frais. Et ça m'amène à une question.
Comment est-ce qu'on s'investit?
Moi, à partir qu'elle a dit Polygon, je t'ai vendu.
Je vais te prendre 10 rangées.
Mais... Côté législatif au Québec,
ouais.
Comment est-ce que... Je sais pas si t'as encore regardé.
C'est une prévente de production. Je t'ai vendu de l'ail. Alors, je te fais un contrat que, qui est réelle, faite par mon père, avocat, is a tax lawyer. Je te donne non seulement le NFT, mais je te donne un contrat qui dit je te vends l'ail. C'est ça que tu as acheté. Tu n'as rien d'acheté de plus. Je t'ai vendu l'ail à un prix élevé qui va, dans mes calculations, va payer non seulement l'ail, mais les gens qui vont faire les rangées, vont les planter, récolter, faire le tout.
Et après mais ça, c'est tes rangées.
C'est tes rangées. Là, il y a deux façons que je peux le faire parce qu'il a commencé à rentrer dans un volet qui est intéressant. Tu peux vendre une rangée spécifique, dire OK, voici le géotag ou la géolocation de ta rangée d'ail. Bon, ça, c'est intéressant. Mais pourquoi pas le mettre dans un pool qui va dire, dans certains cas, il y a une rangée qui a mal poussé, mais l'autre rangée directement à côté a mieux été. Alors, tu fais partie du pool de 2022, 2023, whatever.
Tu fais littéralement un liquidity pool d'ail. Putain.
Alors, ce que tu as bâti, c'est comme, si tu penses à ça, on est une banque où tu prends ton investissement, à chaque année, tu as la capacité de prendre possession, alors prendre ou sortir l'argent et vendre cet argent-là sans charger les TPS TVQ à les gens qui vont te l'acheter. Ça, c'est une affaire. Ou tu peux l'utiliser comme dans ton restaurant, tu peux le manger, tu peux le donner aux gens comme tu veux. Tu peux le vendre au marché, faire de l'argent, alors le mettre en cash, sortir ton investissement et le mettre en cash, et c'est de quoi que tout le monde mange partout dans le monde, et la réputation de Chine est, bon, l'Espagne c'est correct, mais de la Chine est mauvais pour l'ail, et l'ail de la Chine ne goûte pas du tout.
Plus en plus, les gens vont payer parce que c'est écrit produit du Québec.
Là, on parle même pas de nourriture.
Et c'est juste un produit qui est meilleur, juste réellement, là. Et je parle pas juste de notre ail, je parle de l'ail du Québec est meilleur que l'ail de Chine, il y a pas question. Là, tu peux prendre ton argent et sortir en liquidité, mais toi, tu peux décider quand tu fais ça. Alors, si une année que j'ai des grosses pertes, des affaires de même, je peux payer mes impôts, des gros taxes des impôts sur mon revenu, je peux décider, ah, OK, this is a good year for me. Oh, excuse-moi. C'est une bonne année pour que je ressors de cet investissement-là. Et tu peux le replanter et le replanter et replanter. Et alors, tu as créé dans un sens un fund. Ce qui est basé sur un monde réel. C'est comme créer un investment fund, mais à être fermier. Alors, et y a une grosse bénéfice. Si tu as 5 000 en revenus comme fermier, tu peux devenir un fermier, avoir ton NIM, c'est ce qui s'appelle ton NIM, numéro identificateur de whatever, là, c'est ce qui parvient du gouvernement. Là, quand tu es fermier, tu peux acheter une terre agricole, tu peux bâtir tout ce qu'on a bâti sur notre terre, que ce soit des serres, une vente de kiosque de fruits et légumes, des affaires de même. Tu peux tout faire ça. Puis, à un point, si tu as un revenu ou si, mettons, tu fais ta retraite, là, tu as des revenus qui datent de longtemps d'être fermier. Tu fais ta retraite, t'achètes une terre agricole, tu travailles plus à temps plein dans la job que tu avais avant. Là, tu es fermier à temps plein, boum, tu pars d'une maison sur cette terre agricole-là. Ta terre agricole que tu vas acheter pour beaucoup moins cher qu'une terre résidentielle devient une terre qui a une résidence, mais qui a les taxes d'une terre agricole.
Pour revendre ce terrain-là si avec cette résidence.
Tu
n'as
pas nécessairement à revendre ce terrain-là.
Mais si tu peux revendre
ta maison ou ta ferme n'importe quand.
Est-ce qu'il faudrait que ça soit à quelqu'un qui est fermier aussi ou tu peux revendre à n'importe qui?
Tu peux revendre à n'importe qui.
Sauf que tu peux littéralement acheter un terrain agricole, bâtir une maison résidentielle dessus parce que tu es fermier à temps plein et maintenant revendre ce terrain-là avec la maison résidentielle.
Mais il faut réellement devenir fermier à temps plein. Et le seul... Quand tu fais cette demande-là, ils vont demander... OK, où est ta ferme, à grandeur, des affaires de même? Combien de revenus as-tu de cette ferme-là? Et combien de profits as-tu de cette ferme-là? Ils vont décider, OK, oui, tu as, mettons, 150 000 en revenus, tu as 60 000 en profits. Bon, tu es fermier à temps plein, tu peux payer la maison, tu peux faire ton affaire. Voici la maison.
Puis 5 ans plus tard, tu pourrais revendre cette maison-là avec ce terrain-là, mais au prix résidentiel.
Du marché, au prix résidentiel, parce que tu as une maison.
Okay.
Ce qui est très, 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 très intéressant. Alors, pour moi, l'investissement que j'ai fait était un côté immobilier, non seulement de you know, first rule of real estate, de location, location, location.
Tu peux bâtir un quartier comme ça, bordel.
Ça, c'est moi.
Mettons que c'est ma tête. Mais c'est ça l'idée. Je peux bâtir un quartier parce qu'une fois que je suis fermier, là, je prends mes rangées d'ail, je te le vends. Là,
non,
toi, tu fais.
Fermier,
C'est où je signe?